récit que nous avons lu au début. Maintenant qu'Élie a prononcé son oracle, eh bien, il se retrouve dans une situation particulièrement précaire. Il court le danger d'abord, de s'attirer les foudres du roi Achab et de son épouse Jézabel. Et il, lui aussi, comme tous les Israélites, il est soumis à la sécheresse. Dieu prend alors soin de lui de deux manières. D'abord, en lui indiquant où se cacher, près du torrent de Kérit. Et ensuite, en lui permettant d'être nourri par des corbeaux. C'est vraiment une promesse surprenante. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alors ces corbeaux, on en discutait avec Marc cette semaine, on ne sait pas si c'est quelque part une figure des Arabes qui pouvaient venir nourrir Élie là, ou si ce sont véritablement des animaux. En tout cas, quoi qu'il en soit, la providence de Dieu est là. Et matin et soir, Élie reçoit sa nourriture de cette providence divine. Dieu se sert d'animaux pour prendre soin de son prophète. Et si on reste sur l'hypothèse que ce sont bien des corbeaux qui sont venus, on se rappelle que dans les deux premiers chapitres de la Genèse, les humains sont appelés à dominer sur les animaux. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, d'une domination où c'est le plus fort qui va dominer sur le plus faible, etc. Non, il s'agit en fait de prendre soin des animaux, prendre soin de la création. Et comme Dieu crée tout par sa parole, l'homme va lui aussi commencer à répondre à la mission que le Seigneur lui a donnée en commençant à donner des noms aux animaux. Mais parmi eux, il ne se trouve aucun qui ne soit d'une aide réciproque pour l'homme, aucun qui soit en mesure de pouvoir prendre soin de lui comme lui peut prendre soin des animaux. Et pourtant, dans notre texte, ce sont bien des corbeaux qui prennent soin d'Élie. Que Dieu soit derrière ce phénomène surnaturel ne doit pas nous empêcher de discerner qu'il choisit de le faire avec des moyens humains qu'il faut avoir la simplicité d'accepter. Mais ce canal du soin divin arrive à son terme, tout simplement parce que le torrent de Kérit arrive à sec. Et alors Dieu dit à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y, voilà, là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Le texte biblique est rempli de paradoxes, vous ne trouvez pas ? D'abord, Dieu envoie Élie au territoire de Sidon, à Sarepta. C'est le pays d'où est originaire Jézabel, la femme du roi Achab. C'est elle qui règne en Israël, alors que le pays dépérit, pas tellement au niveau de la famille, mais encore plus sur le plan spirituel. C'est dans ce territoire-là que Élie est appelé par Dieu à y résider. Et puis, Dieu prend soin d'Élie et d'une veuve qui souffre de la sécheresse dans le territoire de Sidon. Et dans le Proche-Orient, c'était l'homme qui était chargé de prendre en charge la maisonnée, d'en prendre soin. Et c'est la raison pour laquelle, la veuve et les orphelins pouvaient être les plus marginalisés dans la société à l'époque, surtout s'ils n'avaient pas de famille élargie pour prendre soin d'eux. C'est au point que l'expression « la veuve, l'orphelin et l'immigrant », c'est comme une simplification pour parler des pauvres. Celles et ceux qui vivent dans la pauvreté ont besoin que l'on prenne soin d'eux. Et pourtant, c'est Dieu dit à Élie qu'il a ordonné à une veuve de le nourrir. C'est cette femme pauvre qui n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche, qui a un fils et qui souffre de la faim, et qui s'apprête même qui se prépare à la mort, c'est cette femme-là qui va prendre soin d'Élie. Alors bien sûr, le tableau est un peu plus complexe que cela. C'est parce que Dieu veille sur Élie, que la veuve pourvoit miraculeusement, reçoit miraculeusement de quoi vivre, jusqu'à ce que la pluie revienne. En ce sens, la présence d'Élie est vraiment une source de bénédiction pour la veuve et pour son fils. Et dans cette histoire, Élie et la veuve dépendent mutuellement l'un de l'autre. Pas exactement de la même manière, mais ils dépendent l'un de l'autre et chacun prend soin de l'autre. Et le texte biblique insiste en tout cas sur l'obéissance de la veuve. Elle ne se contente pas de bénéficier passivement d'un miracle qui lui permette de prendre soin d'Élie et de pourvoir à ses propres besoins et à ceux de son fils, non. Elle doit d'abord faire selon la parole d'Élie et accepter de préparer un petit gâteau pour le donner à Élie. Et après, elle pourra faire à manger pour elle et son fils. Elle choisit volontairement ainsi de prendre soin d'Élie. Et puis un jour, c'est le drame. Comme on l'a lu, le fils de la femme, maîtresse de la maison, eh bien, tombe malade et la maladie est tellement violente qu'il n'y a plus de respiration chez l'enfant. Chez la veuve, alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui revient, qui refoule, qui remonte et elle éclate. Et elle a cette parole qui est surprenante. « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Et dans notre vie, eh bien, il y a des fois des circonstances qui sont confuses. Et des fois, dans notre passé, on a pu vivre des choses où on a pu faire des erreurs, où on a pu commettre des fautes. Et le malheur, quand il arrive, fait refouler, fait remonter toutes ces choses. Mais Élie, lui, ne réagit pas en parlant à la veuve d'une faute. Il ne lui parle pas d'une erreur qu'elle a pu commettre, non. Il crie à Dieu et il reconnaît qu'il est l'hôte de cette femme. Et pour paraphraser, c'est comme s'il lui disait quelque part « Prends soin d'elle ». Dieu exauce son prophète et ressuscite l'enfant. Et le texte se conclut par la parole de la femme « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Dan Brefster, qui a développé la réflexion biblique de l'association Compassion Internationale, qui est un peu l'équivalent du CEL, si vous voulez, mais sur le plan international, a commenté ce passage en disant « Souvenez-vous, que la femme a vu un miracle se produire dans sa maison quotidiennement, pendant peut-être 2 à 3 ans. Un miracle où, si vous voulez, un projet de secours d'urgence et de développement s'est déroulé dans sa propre maison chaque jour. Mais c'est seulement quand le prophète a répondu à un besoin qui était au plus près de son cœur, la vie de son fils, eh bien qu'elle voit et qu'elle comprend que Élie est vraiment un homme de Dieu. » Qui dit la vérité. En fin de compte, nous en revenons à ce que nous disions au départ, c'est que c'est Dieu qui prend soin lui-même d'Élie, de la veuve, de son fils. Dans son alliance, Dieu promettait de manifester sa fidélité, en particulier dans le domaine de la terre et de la descendance, et c'est ce qu'il fait encore au milieu de la famine ici. Il multiplie miraculeusement le fruit de la terre et il ressuscite l'orphelin. Et c'est lorsqu'il a accompli ce dernier miracle que la veuve fait une profession de foi, parce que sur la terre, son fils était ce qu'elle avait de plus précieux et que le Seigneur en a pris soin par l'intermédiaire d'Élie. Alors que nous apprend ce texte? Comment résonne-t-il dans nos propres vies? Bien, tout d'abord, il nous faut considérer que Dieu nous connaît réellement et connaît nos besoins. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient spirituels ou autres. Pourtant, il nous arrive de chercher du secours là où il n'est pas possible d'en trouver ou là où il n'est pas suffisant. Par exemple, nous pouvons penser que des fois, eh bien, l'argent peut suffire à combler les besoins de l'autre. Mais en fait, l'argent ne comble pas les besoins profonds de l'autre. Face à la tentation de faire de Mammon le Dieu qui résout tous les problèmes, eh bien Jésus nous appelle à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par surcroît. Cela peut impliquer, par exemple, de poser des actes concrets de soins envers notre prochain. Alors même que peut-être nous pensons que nous-mêmes, nos propres besoins ne nous semblent pas satisfaits. Mais tout simplement, poser ces actes de foi concrets parce que nous avons foi dans le Christ et dans le fait que sa grâce nous suffise. Et Élie a demandé à la veuve de lui préparer un petit gâteau pour lui, et elle l'a fait, alors que pourtant elle n'avait presque plus rien, mais elle a fait ce choix de le donner. Y a-t-il, nous aussi, un petit quelque chose que nous pouvons faire pour prendre soin peut-être d'un membre de notre famille, ou bien d'un membre de l'Église, ou bien d'un voisin, d'un collègue, ou peut-être tout simplement d'une personne pauvre que nous pouvons croiser sur notre chemin? Il y a bien des manières de prendre soin de l'autre. Par exemple, un vieil adage dit que les gens trébuchent plus souvent sur nos langues que sur nos pieds. Prendre soin de l'autre, c'est lui adresser des mots réconfortants, valorisants, rassurants, encourageants, pour qu'il se sente accueilli, accepté, aimé. Prendre soin de l'autre, c'est aussi lui demander pardon quand nous avons réalisé que nous avons pu le blesser ou le négliger. Prendre soin, c'est être bienveillant, c'est se soucier de l'autre, et c'est savoir être présent par nos attitudes, par nos comportements, par nos émotions. Cela nécessite certainement une grande dose d'intelligence émotionnelle et beaucoup d'empathie, et nous ne cesserons jamais d'en avoir assez et de chercher à toujours plus en avoir. Il n'est pas nécessaire donc d'être riche pour pouvoir prendre soin des autres et des plus pauvres notamment. Il existe un outil puissant pour créer un impact durable et réel sur les autres, c'est notre présence. Peu de choses laissent autant de marques que de montrer à cette personne-là qui est en face de nous. Peu de choses laissent autant de marques que le fait que nous soyons présents avec elle. Le temps s'arrête lorsque nous sommes ensemble, et rien ne compte plus que ce moment-là. Ce qui se passe dans ce moment partagé est précieux. Être avec l'autre, en présence, c'est l'élément le plus décisif des relations humaines. Il faut donner du sens à ce moment, par exemple à travers le regard, à travers l'attention, à travers la communication. Le soin est réciproque aussi. Nous sommes appelés à prendre soin, mais nous sommes aussi appelés parfois, selon les circonstances de notre vie, eh bien, à recevoir des autres le soin que Dieu veut nous apporter au travers des autres. Et cela demande de l'humilité de reconnaître que eh bien, nous sommes peut-être un peu plus vulnérables, peut-être un peu plus faibles durant cette période-là, et que nous avons besoin des autres, que nous avons besoin du secours de Dieu. L'humilité de recevoir de qui Dieu voudra bien nous envoyer pour prendre soin de nous. Humilité de reconnaître que dans le soin, tout le monde a un rôle à jouer, mais que seul Dieu fait une véritable différence décisive. Humilité et amour pour notre prochain, en nous souciant de ce qui est le plus précieux pour lui, comme Élie, qui avait compris que ce qui était le plus précieux aux yeux de la veuve, eh bien, c'était la vie de son fils. Blaise Pascal a écrit quelques lignes qui méritent d'attirer notre attention dans un commentaire qu'il a fait et qui s'intitule « Le mystère de Jésus ». Et dans ce commentaire, il y médite sur les textes du jardin de Gethsémané en ces termes. « Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes. Cela est unique en toute sa vie, cela me semble. Mais il n'en reçoit pas, car ses disciples dorment. Le bon berger qui prend soin de ses brebis a-t-il ressenti le besoin que l'on prenne soin de lui ? En tout cas, il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de veiller sur lui au moment de la plus grande tristesse, et il est entré dans l'humilité des relations d'interdépendance humaine. Même s'il n'a pas reçu ce qu'il avait demandé. En Philippiens, au chapitre 2, nous lisons « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Jésus est le Fils de Dieu. Il aurait pu exiger des autres sur la terre qu'ils prennent soin de lui. Quand il a exprimé des besoins, quand il a manifesté le désir que l'on prenne soin de lui, en fait, c'est que lui-même, il avait dans la tête de prendre soin de l'autre. Comme par exemple, quand il a demandé à boire à la femme samaritaine au bord du puits. Finalement, il a pris soin de la femme. Autant qu'il a reçu de l'eau, il en a encore pris plus soin parce qu'il a répondu à tous ses besoins fondamentaux. Jésus savait que l'homme était bien peu consistant pour être capable d'être dans une relation de réciprocité avec lui. Cela ne l'a pas empêché de prendre soin de chacun de nous, en répondant à notre besoin fondamental, essentiel d'être sauvé et d'être réconcilié avec Dieu en allant jusqu'à la mort de la croix pour nous. Que le fruit de l'esprit, l'amour, la douceur, la patience, la bienveillance, la bonté, la paix, la joie, la fidélité, la maîtrise de soi, que ce fruit de l'esprit mûrisse toujours plus en nous afin de nous amener à toujours plus mieux prendre soin les uns des autres. Amen.